Nous levons pour acclamer l'Évangile.
Hosanna, Sauveur des hommes, louange et gloire à toi. Hosanna pour ton royaume, louange et gloire à toi. Jésus, fils de David, joie dans nos maisons. Jésus, fils de David, béni soit ton nom. Hosanna, sauveur des hommes, louange et gloire à toi. Hosanna pour ton royaume, louange et gloire à toi.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la sixième heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit, « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits ?» et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua, « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit, « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu cinq. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. » La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. » La femme lui dit, « Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » À ce moment-là, ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit « Que cherches-tu ?» ou bien « Pourquoi parles-tu avec elle ?» La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers lui. Entre-temps, les disciples l'appelaient « Rabbi, viens manger !» Mais il répondit « Pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient entre eux « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas « Encore 4 mois et ce sera la moisson ?» Et moi, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire. Il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai, le dicton. L'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort et vous en avez bénéficié. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que je fais. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils firent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Et aujourd'hui, je donne la parole à Sophie Claret.
Nous connaissons bien ce texte d'Évangile où Jésus rencontre cette femme samaritaine au bord d'un puits. Tout les sépare a priori. Les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains, nous rappelle le texte. En effet, cela date du schisme des deux royaumes frères après la mort du roi Salomon en 932 avant Jésus-Christ, avec d'un côté le royaume du Nord avec Samarie et de l'autre le royaume du Sud avec Jérusalem. À l'époque de Jésus, ce ne sont plus deux royaumes mais des régions différentes. Cependant, les ressentis sont restés. Et pourtant, à la fin du récit, ce sont bien les Samaritains qui font un acte de foi que peu de Juifs ont fait jusqu'à présent dans l'évangile de Jean, en déclarant que c'est vraiment lui, Jésus, le sauveur du monde. Alors que s'est-il passé pour en arriver là ? Et comment cela peut-il nous rejoindre aujourd'hui ? Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Dans cette histoire, Jésus, fatigué suite à sa marche, demande à boire à la Samaritaine. Mais à aucun moment, elle ne va lui donner de l'eau. Et d'ailleurs, lorsque les disciples vont revenir vers Jésus, ils ne lui donneront pas d'eau non plus. Et lorsqu'il lui propose de la nourriture, Jésus répond qu'il se nourrit d'autre chose que d'une nourriture terrestre. Alors si la femme ne donne pas d'eau à Jésus, que lui donne-t-elle ? Elle est d'abord réticente. « Comment toi, un juif, tu me demandes à boire à moi, une samaritaine ?» Mais cependant, elle accepte de parler à Jésus, cet étranger. Ce qu'elle donne alors ici, en premier, c'est une parole qui va ouvrir la possibilité d'une rencontre. La réponse de Jésus est étonnante. Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. La femme est très pragmatique. Tu n'as rien ici pour puiser et le puits est profond. Mais petit à petit, Jésus l'emmène sur un autre terrain, celui de l'eau vive, de l'eau vivante, de l'eau qui devient source jaillissante en vie éternelle. La Samaritaine, qui n'a peut-être pas tout compris, ose cependant demander cette eau. « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui avait demandé à boire, mais finalement, c'est elle qui fait une demande. Elle permet ainsi à Jésus de donner, de se donner. Mais qu'est-ce que c'est que cette eau vivante que nous associons souvent au baptême? Alors regardons ce que Jésus donne à la Samaritaine. Juste des paroles. Mais les paroles de Jésus ne sont pas anodines. Nous sommes dans l'évangile de Jean, qui commence avec le prologue, et qui nous dit que Jésus est la parole de Dieu et le Verbe incarné. Et Jésus commence par une parole qui peut paraître décalée. « Va, appelle ton mari et reviens. » Elle répond qu'elle n'a pas de mari. Jésus lui dit qu'elle a raison. Alors si Jésus le savait, pourquoi lui demander? Eh bien, pour lui permettre de se réajuster. Ce que donne Jésus à ce moment-là, c'est une parole qui remet l'autre en vérité. À partir de là, de cette confiance restaurée, en effet, un dialogue va pouvoir s'engager. La Samaritaine questionne Jésus sur la différence des Juifs et des Samaritains quant au lieu où adorer. Et ce qui compte, répond Jésus, n'est pas le lieu, mais c'est d'adorer en esprit et en vérité. Jérusalem ne prime pas. Jésus ouvre ici une dimension universelle. Et la Samaritaine écoute Jésus tel un disciple, alors que les disciples juifs de Jésus sont partis, elle, la Samaritaine, prend cette place de disciple. Le disciple, c'est celui qui suit, mais littéralement en grec, c'est aussi celui qui apprend, l'apprenant. Et lorsqu'elle ouvre son cœur à Jésus sur l'attente du Messie, « Je sais qu'il vient, le Messie, celui qu'on appelle Christ », alors seulement à ce moment-là, Jésus peut se dévoiler. « Je le suis, moi qui te parle ». Il a fallu tout ce chemin pour la Samaritaine. Accepter de parler à un étranger, oser lui demander cette eau vive, dire une parole en vérité sur elle-même, écouter Jésus comme un disciple et ouvrir son cœur à l'attente du Messie. À partir de ce moment-là, elle laisse sa cruche. Elle n'en a plus besoin. Elle n'a plus besoin de puiser. Mais n'avait-elle pas dit justement à Jésus « Donne-moi de cette eau que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser ?» Eh bien, c'est exactement ce qui vient de se passer. Elle-même est remplie de cette eau vive en ayant reçu la parole de Jésus. Mais d'ailleurs, si on regarde bien le texte, le début du texte, où Jésus est assis près de la source, en fait, le texte grec, les évangiles sont écrits en grec, et le texte grec écrit plus exactement « Jésus assis sur la source ». Alors, si nous acceptons cette image de Jésus sur la source, nous voyons comment il donne cette eau vive. Jésus n'est pas la source, mais il en est traversé, et nous ne pouvons avoir accès à cette eau qu'en passant par lui. Et il donne sa parole. La Samaritaine devient elle-même tabernacle de cette parole de Jésus. Et parce que cette parole devient en elle source jaillissante, Elle ne peut pas la garder pour elle. Alors elle revient à la ville et parle aux Samaritains. « Ne serait-il pas le Christ ?» leur dit-elle. Sa parole n'est pas une affirmation. Elle permet ainsi à ceux qui l'écoutent de se mettre eux-mêmes en marche. Combien de fois avons-nous expérimenté ces paroles qui nous brûlent et que nous devons à tout prix aller dire aux autres, mais nous les posons comme des affirmations toutes faites, ne laissant plus à l'autre la place de réfléchir, de se questionner. L'homme est un être de parole, c'est bien ce qui nous caractérise. Nous parlons d'ailleurs aux tout-petits, avant qu'ils ne parlent, et lorsque ceux-ci commencent à dire quelques mots en grandissant, nous nous émerveillons. Mais parler, c'est toujours se risquer devant l'autre. J'en fais l'expérience en ce moment. Nous-mêmes, nous sommes porteurs des paroles des autres. Et Dieu parle à travers nous, malgré nos imperfections. La parole nous traverse pour les autres. Elle nous relie les uns aux autres. Elle nous fait vivre. La Samaritaine se risque devant les Samaritains en disant « Celui-ci n'est-il pas le Christ ?» Mais cette question est une ouverture qui pousse les Samaritains à aller plus loin. Ils invitent Jésus à demeurer chez eux pour l'écouter à leur tour jusqu'à cet acte de foi extraordinaire. Il est le sauveur du monde, il est le sauveur des Juifs, des Samaritains, il est le sauveur de tous. Les textes que nous lisons, nous les proclamons ensemble, paroles de Dieu. Alors Dieu nous parle, et nous pouvons aussi devenir porteurs de cette parole pour les autres. Comme la Samaritaine qui laisse sa cruche et repart avec autre chose que l'eau qu'elle était venue puiser, puissions-nous, nous aussi, repartir d'ici ce matin avec autre chose que ce que nous pensions venir chercher, avec cette eau vive qui nous remplit.